m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui, avec courtoisie,
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, il est 17h30, bienvenue dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, chaque jour, en direct, de 17h30 à 19h30. Au programme, nous recevons tout d'abord l'analyste politique et géopolitique franco-libanais Michel Fayad, que vous connaissez bien. Il publie aujourd'hui un livre, Après la guerre, la menace à nos portes, paru aux éditions Fayard, dans la collection Pensée Libre. Un essai donc qui nous plonge au cœur du chaos du Moyen-Orient, merci Trump, tout en reliant ces lignes de fracture aux enjeux de politique étrangère française et à la sécurité nationale, parce qu'on ne pose jamais la question de qu'est-ce qui va se passer pour nous. Et Michel y répond. À 18h30, on reçoit Benjamin Chalut pour son essai La civilisation du geste, quand le savoir-faire façonne le destin des peuples, paru aux éditions Eurésis, un livre qui repose une question fondamentale. Et si l'essence de notre économie, notre civilisation reposait non sur des abstractions financières, mais sur des gestes maîtrisés, des compétences transmises, une intelligence pratique accumulée dans le temps. Je vous rappelle, chers auditeurs, vous pouvez évidemment participer à l'émission au 01 45 51 00 85. Et pour m'accompagner, évidemment, les deux compères habituels, Romaric Sangarz, bonjour.
Bonjour Arthur.
Rémi Carlu, bonjour.
Bonjour Arthur.
Et je rappelle également que vous pouvez toujours vous procurer le numéro de l'Incorrect, numéro de juin consacré à Maurice Dantec, Dantec par Houellebecq, parce que nous avons avec la complicité de Michel Houellebecq, nous sommes revenus sur toute l'œuvre et la carrière de Maurice Dantec, mort il y a 10 ans. Voilà, donc il vous attend chez votre marchand de journaux, et si vous ne voulez pas vous déplacer, vous pouvez le commander sur le site internet de l'Incorrect, l'incorrect.org. Michel Fayad, bonjour.
Bonjour Arthur.
Merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant que vous signez ce soir votre premier livre, notre nouveau livre, Après la guerre, la menace à nos portes. Le voici, en plus, une très belle édition, j'aime beaucoup ces éditions de Fayard de Pensée Libre. Donc vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, pardon, vous êtes analyste politique, géopolitique franco-libanais, vous êtes né au Liban, donc c'est un pays que vous avez vu tomber aux mains de la Syrie quand vous aviez 7 ans, et cette expérience intime du chaos moyen-oriental n'est pas un arrière-plan dans votre livre, c'est le moteur, c'est quelque chose que vous connaissez bien malheureusement. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on raconte, ce que vous racontez dans ce livre, Après la guerre, la menace à nos portes. Alors votre livre commence à une date précise, le 28 février 2026, Trump annonce des frappes sur l'Iran, Khamenei périt sur les décombres, le régime islamique construit depuis 1979 est décapité en 48 heures, mais aujourd'hui il tient encore. Et là votre question n'est pas comment nous sommes arrivés là, mais qu'est-ce qui vient après ? Parce que qui va s'engouffrer dans ce vide, dans ce chaos, la Turquie, les pétromonarchies, le Pakistan nucléaire, les frères musulmans, Daesh, et puis aussi cette question qui nous concerne plus directement, quelles conséquences pour la France ? Alors vous savez, chers auditeurs, que nous avons habituellement un questionnaire de Proust, mais Michel Fayad ayant déjà répondu 3 fois au questionnaire et devant partir un peu plus tôt parce qu'il signe son livre, on a décidé de sauter exceptionnellement ce questionnaire pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a plein de questions et on ne pourra pas tout traiter. Donc, je le disais, 28 février 2026, Trump annonce des frappes sur l'Iran. Il le fait. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 juin. Quel bilan peut tirer ?
Le bilan, c'est que effectivement, pour la première fois de l'histoire, on a eu en 24 heures l'assassinat du chef de l'État, du ministre de la Défense, du chef de l'armée, du chef de la force paramilitaire. C'est du jamais vu dans l'histoire militaire. Mais en même temps, celui qui est censé être vaincu a quand même gagné une carte en plus dans son dispositif, qui est donc le contrôle du détroit d'Ormuz, de fait. Donc c'est quand même ce paradoxe qu'on voit, c'est-à-dire à la fois une défaite militaire avec donc ces pertes de leadership, mais en même temps cette victoire militaire avec cette prise du détroit d'Ormuz. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fascinant. Et puis on a vu aussi que le conflit sunnite-chiite qu'on voyait depuis 2003, puis qui s'est atténué en 2023 avec la réconciliation entre l'Arabie et l'Iran sous l'égide chinoise, il faut le rappeler, ce conflit est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'on a vu l'Arabie saoudite et le Qatar se rapprocher de l'Iran, les Émirats, eux, par contre, se faire frapper davantage qu'Israël par les Iraniens. Donc il y a quand même pas mal de cartes qui sont rabattues. Et donc maintenant, on ne sait pas si Trump va vouloir relancer cette guerre. Aujourd'hui, il a à nouveau soufflé le chaud par rapport à cette guerre. Alors qu'hier, il voulait calmer tout le monde en disant la paix est à 48 heures. Même J.D. Vance, qu'on croit un peu plus, la tête sur les épaules que par rapport à Trump, lui-même disait aussi un accord d'ici 2 ou 3 jours. Donc, c'est ce qu'il disait hier. Donc vraiment, on ne sait pas exactement où on va. Mais moi, le livre, j'avais pensé sur le fait que même si le régime s'affaiblit ou si le régime venait à tomber, eh bien, l'islamisme, lui, perdurera. C'est ça un peu la thèse. Et cet islamisme sunnite et chiite, parfois s'entendent, parfois se déchirent. Et parce qu'il y a un conflit ancestral entre les deux, ils s'entendent quand c'est contre nous, les non-musulmans. Et ils se déchirent lorsqu'on n'est pas là et que donc ils n'ont que eux à s'affronter. Et là, s'il y a un affaiblissement de l'islamisme chiite, forcément, l'islamisme sunnite va se libérer et va pouvoir se concentrer sur d'autres proies, d'autres adversaires que les seuls Iraniens. Et donc, leurs principales cibles sur place seront les Israéliens, de fait, et les chrétiens libanais, puisqu'ils veulent soumettre ceux qui ne sont pas musulmans et à commencer à ceux qui sont, pas par ceux qui sont présents sur cette terre-là. Et puis, une fois ce travail effectué, ce sera le tour de l'Europe.
Alors, vous parlez de l'axe chiite, l'axe sunnite. Qu'est-ce qui reste de cet axe chiite après les frappes, quelques mois après le déclenchement de cette guerre, l'Iran, le Hezbollah, les Houthis, le Hamas, milice irakienne, c'est quoi l'état des lieux de cet axe chiite aujourd'hui?
Finalement, il a bien tenu, puisque les Hashd al-Sha'bi en Irak, les milices irakiennes, elles ont été plus ou moins préservées. Donc elles sont là. Les Houthis, comme je le disais, en fait, ils sont comme l'Arabie Saoudite a payé l'Iran et est également en train de payer les Houthis pour pouvoir continuer à exporter son pétrole. Donc ça s'est calmé entre les Houthis et les Saoudiens. Donc ils reçoivent de l'argent, tout va bien. Et le Hezbollah, qu'on croyait bien assommé, eh bien maintenant a développé des drones à fibre optique et des drones à carte SIM. Donc c'est quelque chose de vraiment révolutionnaire et les Israéliens sont à la peine. Netanyahou veut mettre tous ses efforts pour trouver la parade à cela. Aujourd'hui, sur le marché, il n'y en a pas de parade. Donc il veut développer cela le plus rapidement possible. On le voit également sur le théâtre ukrainien, puisque... les Russes et les Ukrainiens sont en train d'utiliser ce genre de drones et c'est comme ça qu'ils ne se font pas attraper par les pays par lesquels ils traversent. Vous savez, quand les Ukrainiens passent par différents pays pour atteindre Saint-Pétersbourg ou quand les Russes, eux, passent par différents pays européens pour atteindre l'Ukraine, ils brouillent grâce à ces drones à carte SIM qui changent en fait comment dire, d'identité.
En fait, c'est comme un VPN, quoi.
Exactement.
En permanence, la géolocalisation change, donc ils sont introuvables.
Voilà, et donc, par exemple, sur le théâtre libanais, parce que le Liban, juste, je le rappelle, il est plus petit que l'Île-de-France. Donc, il faut quand même recadrer par rapport à la superficie du pays. Et donc, les Israéliens pensaient que s'ils contrôlaient la région jusqu'aux Litanies, le Hezbollah ne serait plus en mesure de les frapper. Or, aujourd'hui, en étant même au nord du Litanie, grâce à ces drones, ils sont capables de frapper encore la Galilée et de maintenir le million d'Israéliens qui habitent le nord de la Galilée à l'extérieur de leur maison. Donc, en fait, c'est un peu une guerre pour rien qui a été effectuée tant que les Israéliens n'ont pas trouvé la parade à ces drones. Et il y a un autre problème pour les Israéliens, c'est que le Hezbollah a caché ses armes lourdes à l'extrémité nord du Liban, le Hermel. Et là-bas... Et les Israéliens ne vont pas y aller. En 82, ils n'ont pas dépassé Beyrouth. Donc est-ce que cette fois-ci, ils vont aller jusqu'à la frontière nord syrienne? Ça me paraît très peu crédible. Le pire pour le scénario pour les Libanais, et notamment pour les chrétiens, ça serait qu'on donne un feu vert à Joulani, le Syrien, pour que lui rentre. Et que lui prenne soi-disant le contrôle des armes lourdes du Hezbollah. Mais en fait, une fois qu'il est au Liban, il voudra conquérir tout le Liban et tuer les chrétiens.
Mais
tuer
qui pourrait donner ce feu vert et pour quelle raison?
Déjà, il faut savoir que Joulani est soutenu par toutes les forces sunnites de la région, donc c'est-à-dire par les Saoudiens, par les Turcs, par les Émiratis, par les Qataris, par les Pakistanais. Donc même quand Émiratis et Saoudiens se disputent sur le dossier syrien, ils s'entendent très bien. Et il y a en plus de cela Joulani qui est l'invité spécial du G7 dans quelques jours. C'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le 11 septembre 2001, Al-Qaïda attaque soi-disant les États-Unis. Et là, 25 ans après, Al-Qaïda est à la table du G7. C'est quand même...
Et pour quelle raison?
Parce que c'est l'Arabie Saoudite qui est derrière.
D'accord. L'Arabie Saoudite, en fait, impose,
elle impose
dicte la loi, quoi.
Bien sûr, parce qu'elle a l'argent. En fait, je l'explique d'ailleurs dans le livre, c'est un des chapitres, c'est-à-dire que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit les États-Unis, leur complexe militaro-industriel dépend de la vente d'armes à ces pays arabes du Golfe. En premier lieu, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Et donc, cette force, donc, parce qu'ils impactent l'économie de ces pays, ils réclament des concessions de la part de ces pays.
Ouais, on va revenir sur justement la dépendance et comment tout ça s'est construit et fait que nous, on se retrouve...
Mais l'une des concessions, c'est Joulani. C'est
la France, en fait, nous retrouvons dans la main de plein de puissances étrangères. Mmh. On commence à devenir vraiment un pays sous-développé, ce qui est assez inquiétant et puis humiliant. Mais revenons, continuons un peu sur l'état des lieux. Donc, Lakshit, pour l'instant, se maintient, mais sort même un peu renforcé, puisqu'ils ont développé des armes aujourd'hui qu'on ne peut pas contrer. Mais concernant, si on revient, donc ça c'est le Hezbollah, mais si on prend l'Iran, donc je disais dans l'introduction que le régime avait été décapité, en tout cas la tête était tombée, mais le régime tient encore, et vous avez dit que c'était une défaite militaire, mais encore aujourd'hui, ils tirent sur leurs voisins. Donc il y a encore un régime.
Et ils contrôlent le détroit d'Ormuz.
Et c'est ça le paradoxe, d'Ormuz,
c'est incroyable, bien sûr.
Donc alors, qui pilote aujourd'hui le régime iranien? Est-ce que déjà le fils, est-ce qu'on sait, on a plus d'infos, est-ce qu'il est vivant, est-ce que c'est un légume ou alors est-ce qu'il est mort? On n'a pas plus d'infos aujourd'hui?
Non, honnêtement, sur ce point, sur le guide suprême, on ne sait pas s'il est en vie, s'il va bien, s'il a encore tous ses membres de physique. Je ne sais pas, on ne peut pas
trop... On ne peut pas savoir.
D'accord. On ne peut pas vraiment savoir. Trump dit que ça va.
Ouais, mais Trump a dit... il dit tout et son contraire.
Exactement.
On va juger sur le temps long. Au moins 3 mois avant de vérifier.
C'est ça. Mais disons que, comme vous le savez, moi j'ai toujours dit que ceux qui tiennent le régime, ce sont les gardiens, et parmi eux, surtout Mohsen Rezaei, qui est le conseiller militaire de ce guide qu'on ne voit pas. Et l'autre personnage clé du régime, c'est Mohammad Ali Jafari, qui est l'architecte de cette défense mosaïque, qui a permis justement à l'Iran de se maintenir depuis le 28 février.
Ce que vous appelez une défense mosaïque?
C'est en fait que cette capacité qu'ont les gardiens de la révolution à se défendre sans référer au pouvoir central s'ils sont attaqués dans chaque région. Et ça en va de même pour leur proxy. C'est-à-dire que si le Hezbollah n'a plus de lien avec le commandement à Téhéran, le Hezbollah peut agir de manière autonome. Alors que dans l'état actuel, il obéit directement aux gardiens de la révolution iranienne à Téhéran. Donc ils font partie de ce commandement des gardiens de la révolution. Et puis ces deux-là, donc Reza et Jafari, ont placé à la tête de la sécurité nationale à la place de l'Arijani Zolkader, qui est leur homme. C'est le beau-frère de Jafari, et c'est l'ancien numéro 2 donc de Rezaei. Puis ils ont nommé à la tête des gardiens de la révolution un monsieur qui s'appelle Ahmad Vahidi, qui était le premier chef de la force Al-Quds, donc la force des gardiens de la révolution qui agit sur les théâtres extérieurs, et qui avait été créé par Rezaei. Et donc Vahidi était le premier qu'il avait nommé à la tête de cette force Al-Quds, et aujourd'hui il l'a fait nommer à la tête des gardiens. Donc en fait, on voit bien que c'est l'homme fort de ce régime aujourd'hui, Rezaei, puis Jafari. En fait, quand je disais ça, dès le début de la guerre, déjà en juin, on me disait non, mais on ne les voit pas sur l'organigramme. Mmh. Puis Reza est apparu sur l'organigramme. Pour le moment, Jafari n'apparaît pas sur l'organigramme, mais la défense mosaïque, c'est lui. C'est connu, c'est lui qui l'a développé, il l'a fait publiquement, donc il est forcément là. Et on sait que ce sont les deux vrais grands piliers de ce régime, sachant que le troisième, Trump l'a tué. C'était Soleimani en janvier 2020. Donc en fait, c'était ces trois qui contrôlaient vraiment, qui tenaient le régime. Il en reste deux. Et tant que Trump et Netanyahou ne les ont pas liquidés, la République islamique tiendra.
Et vous pensez qu'il y a une volonté vraiment de les tuer? Parce qu'on peut...
Chez les Israéliens, oui. Chez les Américains, on peut
se poser. Et chez les Américains, parce que comment fonctionne... Bon, ceux qui ont attaqué l'Iran sont les Américains, les Israéliens.
Absolument.
Au départ, il y a une unité, ils étaient tous d'accord, on envoie la sauce, on charge, voilà. Là, on a le sentiment que l'Israël veut continuer la guerre, veut aller jusqu'au bout.
Bien sûr.
Et que l'Amérique, Trump en tout cas, cherche une porte de sortie. Et donc, ce qui est raisonnable de penser que sur les deux têtes pensantes, donc sans qui le régime ne peut pas, quoi, s'il ne tombe pas, le régime ne peut pas tomber, parce qu'il est raisonnable de penser que Trump empêche ou limite l'attaque israélienne sur ces deux profils-là. Parce qu'on... On imagine quand même le Mossad et l'Israël suffisamment puissants pour les dégommer jusque dans les chiottes, comme disait Poutine, les cibles qu'ils visent.
Je pense que les Israéliens savent comment tuer ces personnalités, mais je pense qu'ils ont eu un problème dans le renseignement, c'est-à-dire qu'ils étaient Ils avaient un renseignement extrêmement puissant pour deviner et savoir où est caché tel et tel. Mais ils avaient un problème quant à l'organigramme. Parce que l'organigramme dont je vous parlais, chaque fois que le chef de Tsahal apparaissait, le chef d'état-major, il montrait cet organigramme dans lequel n'apparaissaient pas ces personnalités-là. Donc ça montrait une sorte d'incompréhension, une sorte de manque dans le renseignement. Tandis que le renseignement, comme je dis, sur place, pour savoir où est-elle, où est-ce qu'il habite, comment il agit, comment il sort, comment il rentre, ça, ils l'ont. Et je pense que pour les Américains et les Israéliens, il y a toujours eu une sorte de rivalité sur le dossier, sur le Moyen-Orient. Vous savez, on a l'impression un peu parfois que les Israéliens sont soutenus par les Américains soutiennent, etc. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. En 1982, lorsqu'il y a eu l'opération Paix en Galilée des Israéliens au Liban, Reagan était contre. Quand il a vu que son secrétaire d'État, Alexander Haig, était au courant et avait soutenu l'opération Paix en Galilée, il l'a viré. Et la première chose qu'a fait Reagan après que l'opération ait réussi, l'opération israélienne ait réussi, puisque Arafat a été vaincu et a été forcé de quitter le Liban, Reagan a demandé à ce qu'il y ait un accord de paix avec Arafat et qu'il y ait deux États et un État palestinien pour Arafat. Et Begin a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette trahison? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis après, il y a eu Sabra et Shatila qui a été filmé, documenté par les médias américains. Donc, il y a cette rivalité malgré tout. Et aujourd'hui, on la revoit. Et il y a un élément assez troublant. C'est que, vous savez, l'envoyé spécial de Trump pour la Syrie, Tom Barrack, ses fonctions ont été élargies désormais à l'Irak. Et Tom Barrack, c'est quelqu'un qui fait partie du lobby pro-arabe au sein de l'administration américaine, qui est anti-israélien, qui souhaite que Giuliani rentre au Liban, alors qu'il est libanais d'origine. Mais ça ne l'empêche pas. Comme à l'époque de Reagan, Philippe Habib était soi-disant libanais d'origine et lui aussi travaillait contre les intérêts libanais. Mais c'est un message assez fort de Trump vis-à-vis des Israéliens parce que c'est un message qui leur montre que sur le dossier syrien et sur le dossier irakien, il leur met quelqu'un d'hostile.
Ouais. Rémi Carlu.
Oui, depuis le début du conflit, le régime iranien a fait preuve d'une résilience, d'une solidité, d'une plasticité quand même assez remarquable. Tout était parti au départ de révoltes populaires qui visiblement n'existent plus, ont été tués dans l'œuf. À chaque fois qu'un membre est éliminé, en fait, il y a quelqu'un pour le remplacer au pied levé. D'où ma question, est-ce que la chute de ce régime est encore à l'ordre du jour? Et notamment les Américains, on a l'impression qu'effectivement, eux, c'est plus du tout un objectif et que dès qu'ils pourront se carapater avec un accord... Eh bien, ils quitteront la région.
Ouais, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, les Américains, ils veulent plutôt un accord, justement, en raison de la pression arabe. Parce que les Saoudiens veulent qu'il y ait la paix, parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, la guerre est en train d'empêcher les investissements en Arabie et le succès de la vision 2030, qui est le projet phare de Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien. Donc, ils veulent la paix pour investir, pour continuer à travailler. Ça, c'est une chose. Mais par rapport à l'Iran, l'Iran peut tomber malgré tout. Il faut qu'on relativise une chose. Avant la guerre, l'Iran avait des problèmes financiers de l'ordre de 300 à 400 milliards de dollars. La guerre a entraîné la destruction de 240 milliards de dollars dans l'économie iranienne. Donc l'économie iranienne est ravagée. Et là, les 24 milliards qu'ils réclament, ce n'est pas pour relancer l'économie, c'est pour payer les salaires. Payer les salaires des gardiens de la Révolution, payer les salaires de l'armée, payer les salaires des fonctionnaires, parce que l'Iran est un pays qui économiquement est socialiste. Il vit de subventions auprès des gens. Et en réalité, si l'asphyxie économique continue, la République islamique peut tomber. Je veux faire deux comparatifs. En Syrie, le régime d'Assad a tenu 13 ans. Ensuite, il est tombé en 8 jours, à partir du moment où le régime d'Assad n'était plus capable de payer ses soldats. 8 jours, il a fallu, après 13 ans de guerre, de résistance, de son point de vue. Et de l'autre côté, il y a eu les bombardements, si vous vous souvenez, de l'OTAN dans cette guerre contre la Serbie au moment du Kosovo. Bombardements que moi, je ne soutenais pas du tout, mais je prends cet exemple. Et à la fin de ces bombardements, il y a une crise économique sans précédent en Serbie, et Milosevic est tombé, alors qu'il avait l'appui de la population jusque-là. Donc... le régime iranien ne peut pas faire exception. Si à partir du moment où il n'y a plus de salaire payé, il peut y avoir un vrai risque pour eux de chuter. Et c'est là où on ne comprend pas aussi totalement Trump, mais on peut le comprendre uniquement si on y voit justement l'influence des Arabes qui veulent la paix pour développer leur projet économique chez eux.
Romaric Sangars.
Oui, qu'en est-il à ce sujet-là aussi de l'attitude de la population, puisqu'on entend dire par-ci par-là que finalement les bombardements auront réconcilié... la population avec le régime qui l'a tyrannisé. J'imagine qu'évidemment c'est assez grossier, mais qu'en est-il aujourd'hui de la position de cette population prise en étau?
Honnêtement, c'est très compliqué à savoir l'opinion réelle de la population. Mais moi, je peux quand même dire que l'écrasante majorité de la population est contre le régime. Moi, je suis allé plusieurs fois en Iran. Je sais que sur place, il y a une majorité de gens contre le régime. Après, est-ce que les gens aiment et souhaitent que leur pays soit dévasté par des bombardements? La réponse est forcément négative. Donc, il y a des limites à cela. Mais malgré tout, je pense que l'amour pour le régime n'existe pas. Enfin, en tout cas, en termes de majorité. Mais il est clair que aujourd'hui, les Iraniens sont un peu défaitistes, parce je parle du peuple, parce qu'ils considèrent que qu'est-ce que c'est que ça ? On descend dans la rue, on nous dit tenez bon, on arrive, puis finalement les Américains arrivent, mais ils s'arrêtent en cours de chemin. Il se passe quoi en fait ? Ils se sentent un peu quand même lâchés.
Est-ce que c'est dû aussi à une nouvelle politique américaine, puisqu'on a vu qu'au Venezuela, finalement, ce n'est pas
Maria Corina Machado.
Et ben voilà, finalement, Arthur s'est bien mieux prononcé les noms étrangers que moi, qui a été mis au pouvoir par Trump, et on a l'impression que justement, il y a toute une, comment dire, une espèce de narratif humanitaire des années 80, 90, 2000 qui a été abandonné, c'est-à-dire qu'on n'apporte plus la démocratie, la libération ou des personnes justes dans ces pays. On fait du business, on remplace les régimes et du coup, que font les... Enfin voilà, dans quel état les populations sont un peu oubliées au passage? Est-ce que justement, il y a une stratégie qui n'a pas été employée à ce niveau-là?
Je pense que c'est vrai, puisque il y a eu dans la presse américaine, il a été filtré comme quoi l'ancien président iranien Ahmadinejad était en fait l'homme sorti du chapeau que les Américains et les Israéliens souhaitaient mettre à la tête de l'Iran. Et là, ça voulait dire qu'en fait Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah, oui, n'a jamais été une carte sérieuse pour les Américains et même pour les Israéliens, puisque mettre en avant le nom d'Ahmadinejad, c'est vraiment aller aux antipodes de la carte Pahlavi. Donc il y a quand même cet aspect des choses. Il y a une autre chose, c'est qu'à un moment donné, la presse américaine avait filtré comme quoi, et puis Trump l'avait même dit publiquement, qu'il voulait soutenir les Kurdes en Iran. Or, soutenir les Kurdes en Iran et leur permettre d'envahir notamment la région azérie, ça aurait provoqué de fait une invasion turque. Et donc ça voulait dire en fait une partition de fait de l'Iran avec des zones d'occupation, des Turcs peut-être, des Pakistanais peut-être, parce qu'il y a une région au sud-est de l'Iran, donc autour de Chabahar, où les gens sont en fait des Baloutches qui sont ethniquement extrêmement proches des Pakistanais, et peut-être les Pakistanais seraient tentés de rentrer aussi. En fait, l'Iran pourrait être morcelé, éclaté, et puis ce qui resterait de l'Iran, leur mettre à leur tête un Ahmadinejad. Enfin, c'est vraiment aux antipodes de ce que la population souhaite. Je rappelle une chose, c'est que la première manifestation contre le régime récente, je veux dire, si on regarde un peu dans l'histoire, ça a été en 2009 à la suite de la réélection contestée d'Ahmadinejad à la présidence. Donc ça a été ce qu'on avait appelé le mouvement vert. Et donc c'est quel affront de mettre celui que la population avait contesté pour le mettre comme successeur du régime actuel. Enfin, vous voyez, c'est quand même surprenant.
Oui, vous nous dites qu'il y aura chute du régime si et seulement si, en tant que conséquence d'une potentielle crise économique et financière. J'imagine qu'Américains et Israéliens ont cette donnée bien en tête. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est même un objectif de guerre, de provoquer, d'accélérer l'advenue de cette crise économique? Et si oui, est-ce que toutes les modalités, toutes les mesures, tous les moyens sont pris pour l'accélérer du côté américain et israélien?
Bon, côté israélien, on sait que l'objectif, c'est la chute de la République islamique d'Iran, ce qu'il arrivera après, tant pis, peu importe. En fait, les Israéliens veulent juste que la République islamique d'Iran tombe. Si demain, il y a partition, comme on le disait, ou chaos, ou guerre civile, ou s'il y a Reza Pahlavi, peu importe, ils sont d'accord, enfin, ils s'en fichent, en fait. Pour les Américains, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement à notre mentalité, à nous, Français, qui est de, quand on a un plan A, et que le plan A échoue, on passe au plan B, et quand le plan B échoue, on passe au plan C. Les Américains, eux, ils ont une stratégie qui est d'avancer plusieurs plans à la fois. Donc, ils avancent le plan A, B et C en même temps. Et ils voient celui qui fonctionne. Donc, il y a un des plans américains qui consiste, en fait, à trouver un accord de paix avec les Iraniens, même si je ne vois pas sur quel terme, en réalité, ils peuvent s'entendre. Il y a le plan B qui font avancer également, qui serait du coup la chute du régime par voie économique. Et puis il y a le plan C qui serait la reprise des frappes. Et ils avancent les trois en même temps. Et c'est pour cela qu'on ne comprend pas Trump. Un coup il danse là, un coup il danse là. Parce qu'en fait, les Américains réfléchissent d'une manière différente que nous, Français.
peut-être parfois ils réfléchissent pas du tout.
Non, mais je suis pas en train d'appuyer leur manière de faire, je juge la présence.
C'est le pragmatisme anglo-saxon, quoi, de toute manière.
Le problème, c'est quand il y a un pragmatisme avec un président à sa tête, on dégage des réunions publiques, parce qu'il commence à devenir sénile, ça devient compliqué. Alors, imaginons, on passe à l'après. Le régime tombe. Qui s'engouffre dans le vide en premier? Parce que, alors, vous, dans votre livre, ce qui est passionnant, c'est que vous imaginez plusieurs candidats à la reprise. Expliquez-nous un peu qui vont être les plus tentés, ceux qui ont le plus intérêt et les plus dangereux.
Déjà, je rappelle que dans la population musulmane mondiale, il y a à peu près 15% de chiites et 85% de sunnites. Que l'Iran est une république islamique et qui n'a pas encore le nucléaire, même s'il le souhaite. Et de l'autre côté, on a un pays qui est le Pakistan, qui est une république islamique, c'est son nom officiel également, et qui dispose déjà de la bombe atomique. On ne sait pas exactement entre 100 et 200 ogives. Donc c'est quand même quelque chose, je rappelle juste une chose, qu'on accuse les Iraniens d'être prêts à bientôt faire 4 ogives. Mais les autres sont déjà à 100 à 200 ogives. Donc on n'est pas dans la même cour de récréation. Et sachant que la population iranienne, c'est 90 millions d'habitants, le Pakistan, c'est 3 à 4 fois plus.
Alors justement, peut-être avant d'aller un peu plus loin là-dessus, comment expliquer en effet que le Pakistan n'ait jamais été vraiment un sujet? Alors que l'Iran, si, vous le dites, ils sont plus nombreux, ils s'affirment république islamique.
Les deux s'affirment république islamique.
Et ils ont le nucléaire. Et beaucoup de nucléaire. Et pourquoi dans ce cas-là, je sais pas, Israël ou l'Amérique n'a pas dit on va aller bombarder le Pakistan? Alors, vous allez dire parce qu'ils ont la bombe, mais avant, pourquoi ça devient une menace maintenant et pourquoi ça l'était pas avant?
En fait, déjà, il y a une chose, c'est que durant la guerre froide, les Soviétiques soutenaient plus ou moins l'Inde. Même si l'Inde avait un visage plutôt neutre, mais de fait était plutôt proche des Soviétiques. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit la relation qui lie l'Inde à la Russie, avec notamment l'achat du pétrole, du gaz, etc. Et il y avait donc le Pakistan qui était plutôt du côté américain, bien qu'islamiste. Donc il y a toujours eu ce volet-là, à la fois islamiste et à la fois l'allié des États-Unis. Le souci, la nouveauté par rapport au Pakistan, c'est que, un, il est surendetté, et c'est l'Arabie Saoudite qui est en train de mettre l'argent à la place de la Banque mondiale et du FMI pour le sauver économiquement. Et donc, de fait, l'Arabie Saoudite est en train de contrôler le Pakistan. Et l'autre chose, c'est qu'en ce moment même, il y a des affrontements entre les Afghans talibans et les Pakistanais. Parce qu'il y a les talibans ne sont pas seulement présents en Afghanistan, ils sont également présents au Pakistan. Les Pashtuns ne sont pas seulement présents en Afghanistan, ils sont également présents au Pakistan. Et donc, on ne peut pas exclure complètement la possibilité qu'il y ait à un moment donné un coup d'État au Pakistan. Et s'il y a un coup d'État au Pakistan avec la prise de contrôle par les talibans de ce pays, ça voudrait dire les talibans qui tiendraient de 100 à 200 ogives nucléaires. Donc ça serait une véritable menace. Et même sans aller jusqu'aux talibans, vous savez que quand Ben Laden a été arrêté, il était au Pakistan, à quelques mètres du siège des renseignements pakistanais, ce qui signifie quoi? Qu'il y a des gens, non mais qu'il y a également au sein des renseignements pakistanais des gens qui sont islamistes, très islamistes et proches des mouvements terroristes. Donc il y a quand même cet aspect à ne pas, disons, minimiser. Le fait qu'on parle beaucoup de l'Iran et beaucoup moins du Pakistan, c'est aussi parce que l'Iran a beaucoup parlé. Ouais. Ils ont essayé de répandre leur révolution un peu partout. Ils ont eu des proxys qui sont toujours présents, etc. Le Pakistan, lui, est beaucoup plus discret. Il n'a pas voulu exporter de révolution, il n'a pas de proxy à l'extérieur. Les seuls problèmes qu'il a, c'est avec l'Inde et l'Afghanistan, et de temps en temps avec l'Iran, et de temps en temps, ça va bien avec l'Iran. Et donc, c'est plus discret, donc on en parle moins. Mais il faut se méfier de ceux qui sont discrets, n'est-ce pas?
Oui, et donc là, ce serait le candidat numéro 1, le Pakistan, pour prendre la place de l'Iran si le régime tombe.
Bah déjà, on le voit. Aujourd'hui, qui mène les négociations? Qui est au cœur des négociations? C'est le Pakistan. Et comme j'ai dit, il ne faut pas oublier que c'est économiquement l'Arabie qui le tient. Et donc, c'est un couple. Ce n'est pas une rivalité entre les Saoudiens et les Pakistanais. C'est un couple.
Merci Michel. On va continuer évidemment ce passionnant entretien et puis avancer davantage dans votre livre. Je le rappelle, Après la guerre, la menace à nos portes. Chers auditeurs, vous pouvez évidemment vous le procurez puisqu'il est sorti aujourd'hui ou peut-être même hier. Bref, il sort aujourd'hui. On a la primeur en plus, vous imaginez. La chance et l'honneur que nous avons de recevoir Michel Fayad. Donc vous allez chez votre libraire ou vous allez le commander en ligne. Chers amis, vous savez également, je le rappelle chaque mercredi et on vous rappelle tous les jours que Radio Courtoisie est une radio libre parce que c'est une radio qui dépend uniquement de vous. Et donc nous avons besoin de votre soutien.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Vous êtes toujours en effet dans Restons courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous sommes avec Michel Fayad qui vient nous présenter Après la guerre, la menace à nos portes chez Fayard. Vous savez, chers auditeurs, qu'à 18h, normalement, c'est la chronique de Rémi Carlu. Mais puisqu'aujourd'hui, on change tout, pas de questionnaire de Proust, et ben la chronique de Rémi Carlu sera en fin de première partie. Petit teasing, comme on dit en bon français auvergnat, il va nous parler de Gaulle et cinéma. Revenons à vous, Michel Fayad. Alors, on parlait du Pakistan, qui en effet se retrouve au cœur des négociations, et qui, avec ses 200 ogives, se verrait bien prendre la place, en tout cas s'engouffrer dans le vide laissé par l'Iran. Il y a l'Arabie Saoudite, évidemment, on va revenir dessus, parce que ils arrosent tout le monde, et puis ils achètent tout le monde, nous y compris. Et il y a également la Turquie.
Oui.
La Turquie d'Erdogan, que vous appelez une république islamique qui ne dit pas son nom. Quel rôle joue la Turquie dans ce Moyen-Orient à feu et à sang, dont on ne sait toujours pas qui va sortir vainqueur? Quelle est la place de la Turquie? Qu'est-ce que souhaite Erdogan? Et en quoi est-ce une menace trop souvent estimée pour vous?
Déjà, ce qu'il faut quand même
sous-estimé,
dire...
Sous-estimé, pardon.
Ce qu'il faut dire, c'est que la Turquie d'Erdogan n'a rien à voir avec la Turquie d'Atatürk. Quand Atatürk a fait la laïcité, aujourd'hui vous avez un Erdogan qui a mis en place une institution qui contrôle un réseau de 20 000 mosquées, dont 2 000 en Europe, y compris en France. Donc c'est un relais d'influence extrêmement puissant. Il a également, la Turquie est le seul pays au monde qui occupe une partie d'un pays européen, membre de l'Union européenne, puisque la Turquie occupe le tiers de Chypre depuis 1974. Et ça, aux yeux et aux... Enfin, tout le monde s'en fiche un peu. Et la Turquie, en fait, est membre de l'OTAN. Et on a l'impression que, en fait, Erdogan a un discours quand il est à Bruxelles. Et il en a un autre lorsqu'il est à Ankara ou à Istanbul. Et là, aujourd'hui, il a fait une déclaration en disant que la sécurité de la Turquie ne commence pas à Hatay. Donc Hatay, c'est une ville autrefois syrienne qui avait été prise par les Turcs. Mais il dit carrément que la sécurité turque commence dans les villes syriennes directement, Damas, Alep, etc. C'est un message qu'il a envoyé aux Israéliens, parce que déjà, lors des derniers congrès, on a vu lui et ses hommes et puis ses militants dire que Jérusalem tombera dans les mains turques. Donc il y a quand même une ambition qui est montrée, même si peut-être que la capacité n'existe pas. En tout cas, l'ambition est là. Et la Turquie est l'un des candidats, comme on dit, si l'Iran venait à tomber, il serait intéressé à rentrer, contrôler les Kurdes, et en tout cas, il serait intéressé à venir prendre le contrôle de la région azérie. Je rappelle justement avec l'Azerbaïdjan, ce sont eux, en 2023, les Turcs et les Azéris, qui ont mis à la rue 120 000 chrétiens arméniens, donc qui ont dû fuir le Haut-Karabakh à pied, femmes, vieillards, enfants, dans la rue, en train de marcher jusqu'en Arménie, complètement humiliés, et qui quittaient leur terre ancestrale. Et là aussi, l'Europe, les États-Unis, le monde entier, on n'a eu rien à faire. C'était 120 000 chrétiens jetés dans la rue, on l'a oublié, de leur terre ancestrale.
Et je rappelle que les Azéris sont financés par Israël.
C'est un peu ça la complexité, c'est-à-dire que les Azéris sont soutenus par les Israéliens, oui, mais en même temps les Azéris sont chiites, alors que les Turcs sont majoritairement sunnites. Il y a vraiment beaucoup de complexité là-dedans. Les Israéliens pensent qu'ils soutiennent les Azéris pour faire face justement à l'Iran, donc un chiite contre un autre chiite, de même que les Israéliens ont longtemps également été les alliés et des Iraniens sous le Shah, mais également après le Shah, durant la guerre Iran-Irak. L'Iran de Khomeini était soutenu par les Israéliens parce qu'ils considéraient qu'en soutenant Khomeini, ils affaiblissaient les Arabes qui étaient de l'autre côté. Et puis, ils ont soutenu aussi les Turcs parce que justement, ils considéraient qu'en soutenant les Turcs, ils embêtaient les Arabes.
Oui.
Bref, les alliances se font et se défont dans cette région du monde. C'est très complexe.
Mais il y a quand même des conséquences, c'est-à-dire que quand les Azéris ont attaqué le Haut-Karabakh et en effet ont dégagé les plus de 100 000 chrétiens arméniens de leur sol ancestral, c'était avec l'aide d'Israël, et Israël n'a rien dit,
et leurs alliés russe.
Non plus.
Et l'aveuglement russe, parce que les Russes ont longtemps été les alliés principaux russe, des Arméniens, les Iraniens étaient les alliés également des Arméniens, et tout le monde s'est un peu caché les yeux, parce que aussi il y a eu un problème qui a été fait en Arménie même, c'est qu'ils se sont dotés d'un premier ministre qui est pro-américain, pro-adhésion à l'Union européenne, et qui a tourné le dos à Poutine, aux Russes et aux Iraniens. Et donc, de fait, il s'est cassé ses seuls alliés, en fait. Donc, il y a eu quand même des erreurs côté arménien
qui ont été faites,
malheureusement. Et je dis vraiment malheureusement, parce que les Arméniens, c'est un peuple qui a énormément souffert et qui a connu le génocide.
Rémi Carlu.
Oui, l'axe chiite donc, est minoritaire 15%, mais ces différentes composantes ont l'air plutôt alignées. Pour ce qui concerne l'axe sunnite, est-ce le cas ? C'est-à-dire que, par exemple, vous parlez du projet néo-impérial d'Erdogan et de la Turquie. Est-ce qu'il y a des puissances sunnites qui s'y opposeraient, tout simplement ?
En tout cas, les alliances peuvent changer, mais pour le moment, on sent qu'il y a comme un bloc uni, c'est-à-dire entre l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, le Pakistan. On sent que ces quatre, pour le moment, sont bien alliés. Mais les alliances peuvent changer. Il y a quelques années, les Qataris et les Saoudiens se détestaient. Aujourd'hui, ce sont les Émiratis qui sont un peu mis au banc et qui sont un peu les adversaires de cet axe-là. Donc oui, encore une fois, les alliances peuvent se faire et se défaire. Mais il est clair que l'Arabie Saoudite veut, elle, dominer. De même qu'Erdogan souhaiterait, lui, dominer. Donc à un moment donné, effectivement, il peut y avoir une querelle de chefs. Mais qui a les moyens, c'est celui qui a l'argent, finalement.
Et alors, quels sont les autres candidats à combler le vide laissé par l'Iran si le régime tombe ? On a fait la Turquie, évidemment le Pakistan, on a parlé un peu de la Syrie, on va revenir. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ?
Donc l'Arabie Saoudite et le Qatar, bien sûr.
Mais ils sont candidats officiellement ou ils veulent tirer les ficelles derrière en envoyant, comme ils font habituellement, des gens en première ligne et puis derrière essayer de récupérer un peu tout ce qu'ils peuvent récupérer.
Oui, eux, ce qu'ils veulent, c'est contrôler et dominer. Après, si en apparence, on voit le Pakistan en première ligne, pourquoi pas ? Si on voit la Turquie en première ligne, pourquoi pas ? Je veux dire, le Qatar a longtemps utilisé la Turquie comme paravent, et l'Arabie on semble vouloir utiliser le Pakistan comme paravent aujourd'hui. Mais c'est vraiment des questions de paravent. Mais à part ces pays-là, il y a quand même aussi Daesh et Al-Qaïda qui font leur retour. Vous savez que quand Daesh était présent au Moyen-Orient, il contrôlait l'équivalent de la superficie de la Grande-Bretagne entre la Syrie et l'Irak. Mais aujourd'hui, Daesh avec Al-Qaïda contrôle un territoire qui est deux fois la taille de la France en Afrique. Donc c'est quand même quelque chose à prendre vraiment en compte. C'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose qui est là-bas en Orient, c'est quelque chose qui est là au Sahel. Et ils sont en train d'aller dans tous les sens. Donc, ils ont pris 1 million de kilomètres carrés dans le Sahel. Ils sont en train d'aller dans deux directions. Une vers le sud, c'est-à-dire pour prendre le contrôle notamment de la Côte d'Ivoire, du Gabon, etc. C'est-à-dire aller vers l'Atlantique. Mais il y a également des poussées et des offensives pour aller vers la Méditerranée, pour essayer de s'en prendre à la Libye, peut-être demain à l'Égypte, à l'Algérie. Vous savez, les Algériens se croient tout puissants, comme quoi ils ne tomberont pas, etc. Je rappelle quand même que durant la décennie noire, si le FLN, le régime algérien a tenu face au GIA, au FIS, c'était pour deux raisons. Un, il y a eu l'aide de la France. Et deux, il n'y avait pas de menace extérieure supplémentaire. Or là, il y aura à la fois une menace extérieure et il y aura des gens de l'intérieur qui se lèveront. Et il n'y aura pas peut-être la France pour venir les aider. Donc en fait, l'Algérie peut tomber.
Mais comme nous l'expliquent Pierre Vermeulen et Moulem Sansal dans un entretien, une conversation croisée publiée dans le magazine L'Incorrect de ce mois-ci, donc je vous invite à l'acheter évidemment. En plus de Dantec, vous aurez cette conversation, nous rappelle Vermeulen et Sansal que depuis quelques années, l'Algérie se dote d'une armée très très puissante et peut-être qu'ils devront ou pourront se passer d'un allié pour défendre leurs frontières avec l'armée et le matériel qu'ils ont aujourd'hui qui n'a rien à voir avec ce qu'ils avaient comme effectif et comme matériel de guerre il y a quelques décennies.
Mais
encore.
Ça dépend, l'adversaire c'est qui ? Si l'adversaire c'est le Maroc, oui, bien sûr que l'Algérie peut se battre contre l'armée marocaine et l'emporter. Si l'adversaire est tout autre, d'accord. Mais si l'adversaire est islamiste, et peut-être même algérien islamiste, alors les choses se compliquent. La question devient, est-ce qu'on est pour un régime FLN ou est-ce qu'on est pour un régime islamiste ? Est-ce qu'on est pour le califat ou est-ce qu'on est contre le califat ? C'est une autre question, et c'est plus une question de juste d'armée forte, c'est une question d'adhésion idéologique. Et si les islamistes ont perdu la guerre de la décennie noire, en fait, dans les faits, quand vous allez dans les rues d'Alger, vous voyez de plus en plus de femmes voilées. Donc en réalité, d'un point de vue sociétal, ils l'ont emporté. Mmh. C'est-à-dire que si ils ont perdu la guerre militaire et ils ont gagné la guerre des esprits, si demain le rapport de force militaire venait à changer, il est possible que ces esprits-là prennent les armes ou bien influencent sur l'armée pour qu'elles ne se battent pas ou une partie d'entre elles ne se battent pas. Et là, l'Algérie pourrait tomber. Et si, imaginons, la Libye tombe d'abord et que de Libye, on attaque l'Algérie. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de scénarios possibles et qui peuvent aller beaucoup plus rapidement qu'on le croit. On est en train de trop minimiser ce qu'ont fait Daesh et Al-Qaïda, qui, je le rappelle, donc, a pris l'équivalent de 2 fois la taille de la France, alors qu'autrefois, ils n'avaient que la taille de la Grande-Bretagne.
Alors, arrivons à la France, puisque ce qui se passe... Quels que soient les débouchés de cette guerre, on ignore encore la fin, beaucoup de pistes sont ouvertes, il y aura, quoi qu'il arrive, des conséquences pour la France et sur la France. Alors déjà, la France, vous dites, c'est pas une spectatrice de cette histoire. Elle est intimement liée, elle est concernée par ce qui se passe au Moyen-Orient, par le Liban, évidemment. Alors c'est vrai que depuis le début de cette guerre, de cette dernière guerre en tout cas, la situation de la France est assez inconfortable. C'est-à-dire que la France s'est opposée clairement à Trump et Netanyahou, ce qui d'ailleurs ces deux derniers lui reproche beaucoup. En même temps, ils se retrouvent dans une position où ils ne peuvent pas rien faire non plus, vu l'amitié, l'histoire et le partenariat, les partenariats que nous avons avec le Liban. Comment vous voyez la position de la France? Est-ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas depuis le début de cette guerre?
Déjà, je pense qu'en France, il y a eu 2 politiques vis-à-vis du Liban. Une politique qui a duré jusqu'à la fin du mandat du général de Gaulle, qui était une politique qui était ouvertement en faveur des chrétiens du Liban. Et puis, depuis le départ du général de Gaulle, il y a une politique française qui, au Liban, a systématiquement été contre les chrétiens du Liban. Pour les chrétiens du Liban, d'un point de vue humanitaire, envoyer des assos... et envoyer de l'argent, des donations, envoyer la finule, tout ça, c'est ce qui est secondaire. Oui, mais par contre, d'un point de vue politique et militaire, systématiquement contre les chrétiens du Liban. En 90, lorsque la Syrie a envahi le Liban, la France de Mitterrand a soutenu l'invasion syrienne des régions chrétiennes libres. Donc, et puis ensuite, quand Jacques Chirac était président, il a soutenu Hariri, un musulman sunnite. Et ensuite, ça a été poursuivi par Sarkozy, par Hollande, en soutenant le fils Saad de Rafik Hariri. Et aujourd'hui, les certaines complaisances d'Emmanuel Macron en faveur du Hezbollah ou en faveur de Nawaf Salam, le premier ministre musulman sunnite, on ne voit pas de complaisance avec les chrétiens. C'est comme si, depuis le départ du général de Gaulle, la France ne veut plus assumer que ses alliés sont les chrétiens libanais. Mmh. Et ce n'est pas être contre les musulmans libanais. Les chrétiens libanais sont la colonne vertébrale du Liban. Vous savez, à l'époque, Saddam Hussein et Jacques Chirac s'étaient rencontrés à Bagdad. Et Saddam Hussein avait dit à Jacques Chirac, quand Jacques Chirac lui avait dit « mon cher ami » et tout ça à Saddam Hussein a dit « permettez-moi d'être très inquiet. Parce que si vous me traitez d'ami alors que moi je ne suis pas de la même religion que vous et que vous traitez de la sorte les chrétiens libanais qui sont censés être vos amis et de la même religion que vous, je suis plus qu'inquiet. Il avait raison, si on voit la suite de l'histoire.
Romaric, son garce.
Oui, justement, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est-à-dire qu'il y a des causes, des solidarités. Bon, évidemment, la cause palestinienne dans tout l'Occident cristallise des solidarités très viscérales, très, très violentes. La cause des chrétiens d'Orient, qui a été défendue en France par des écrivains comme Richard Millet, qui a une très mauvaise réputation, ou comme Sylvain Tesson, qui a moins mauvaise réputation, mais enfin, justement, on a quelques intellectuels, quelques écrivains qui ont pris fait et cause pour les chrétiens d'Orient. Tesson dit d'ailleurs que c'est sa passion pour les causes perdues, comme les Panthères des Neiges, c'est quand même assez effrayant. Comment se fait-il alors que la France était historiquement la protectrice des chrétiens d'Orient, enfin je veux dire presque en mémoire des croisades de Saint-Louis, et puis même des croisades qui étaient à la base aussi une défense des chrétiens du Moyen-Orient, tout simplement, comme la Russie protégeait les orthodoxes hors de la Russie. Comment se fait-il qu'il y ait eu ce basculement après De Gaulle et qu'on n'arrive pas à créer une cause, même si elle existe, hein, un petit peu évidemment de manière mineure, avec SOS Chrétien d'Orient, qui est quand même une institution qui fonctionne en France, qui a de l'ampleur. Donc ça existe un petit peu, mais comment, pourquoi on n'arrive pas davantage à créer une cause, en fait, de cet ordre-là en France?
Bon, il y a SOS Chrétien d'Orient, il y a également, que je connais très bien, ils sont très bien, il y a aussi l'œuvre d'Orient qui fait du bon travail également sur place. Comme j'ai dit, d'un point de vue humanitaire, il n'y a pas de contestation possible. La France est présente. Oui. Mais le problème, c'est vraiment l'aspect politique des choses. Et on revient en fait au pouvoir qu'ont l'Arabie Saoudite et les autres pays arabes qui influent sur la politique étrangère de la France. En fait, il faut bien comprendre que dans l'islam, il est interdit qu'il y ait au-dessus de la tête d'un musulman un non-musulman. Et dans cette région du monde, il y a deux pays où il n'y a pas au-dessus de la tête des musulmans un musulman. Il y a Israël, qui est dirigé par un juif, de fait, et il y a le Liban, qui était en tout cas jusqu'en 90, dirigé par un chrétien. Parce que depuis 90, même si le président est chrétien, il n'a plus de pouvoir.
Oui.
Mais en tout cas, l'objectif de l'Arabie Saoudite, en tant que pays musulman islamiste avec cette idéologie wahhabite, ça a toujours été de soumettre le chrétien et soumettre le juif. Et sachant que le chrétien était plus facile à soumettre que le juif, puisque le juif israélien est très puissant, a beaucoup d'armes, beaucoup d'argent, etc. Tandis que le chrétien libanais est peu armé, n'a pas beaucoup d'argent, n'est pas complètement majoritaire dans le pays. Et donc, c'est beaucoup plus simple de s'attaquer aux chrétiens libanais. Donc l'Arabie Saoudite a livré une guerre contre le Liban depuis 1975. Et cette guerre contre le Liban, elle l'a faite en utilisant des proxys, elle aussi. Elle a utilisé d'abord comme proxy Arafat, parce qu'on parle beaucoup des Palestiniens contre les Israéliens, mais en réalité, les Palestiniens ont tué plus de chrétiens libanais que de juifs. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Et puis ensuite, quand Arafat a été vaincu, les Saoudiens ont utilisé Hafez al-Assad contre les chrétiens du Liban, donc un autre proxy. Et aujourd'hui, il n'y a plus ni Arafat ni Assad, mais il y a Joulani. Et Joulani pourrait être le nouveau proxy saoudien contre les chrétiens du Liban.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, nos partenariats stratégiques, entre guillemets, qu'on développe depuis des années avec les pétromonarchies, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats, en fait, sont juste une soumission, et à chaque année, de plus en plus, chaque année qui passe, une soumission de plus en plus importante, et qu'aujourd'hui, au nom de ces partenariats, et parce que nous sommes dépendants financièrement de ces pétromonarchies, on est obligé de s'aligner sur leur ligne politique
étrangères, mais également sur leur ligne de politique intérieure. C'est pour cela qu'en France, on est en train de faire des concessions en faveur de l'islam, des concessions qu'on n'était pas prêt à faire auparavant. Donc on est en train d'en faire de plus en plus, et ça montre bien que ces pays arabes du Golfe qui ont de l'argent, qui investissent sur notre sol et qui achètent nos armes, non seulement exigent des contreparties au niveau de la politique étrangère, mais ils exigent de fait des contreparties, des concessions en politique intérieure. Donc il y a un double problème, à la fois en politique extérieure et en politique intérieure.
Alors en politique intérieure, concrètement, par exemple, c'est quoi ? On fait une loi, les concepts d'islamophobie, par exemple, ils surfent dessus. Quand on fait des propositions de loi, qu'on discute de propositions de loi sur le voile, ils interviennent directement pour dire non, on fait rien sur le voile, sur le halal, sur en fait tous ces sujets-là.
Mais sur tous ces sujets, mais ça c'est les sujets visibles que vous êtes en train de dire.
Alors quels sont les sujets invisibles ?
Il y a un sujet invisible dont je parle dans le livre qui est en fait les consignes de vote. Parce qu'on parle souvent des stratégies de LFI pour obtenir le vote musulman, mais on parle rarement du fait que les imams eux-mêmes font des consignes de vote obligatoires. Et vous savez, quand vous interrogez chefs de bureau électoraux, vous voyez souvent, ils vous disent qu'à la fin de la journée, vers 17h, 18h, et dans les grandes villes, vers 19h, 20h, il y a des gens qui n'ont jamais vu venir voter, qui débarquent, qui veulent voter, qui ne savent pas voter, certains ne sont même pas inscrits sur la liste électorale, mais ils pensaient l'être, ils veulent venir voter tel un seul homme, parce qu'ils ont reçu la consigne de vote de l'imam. Et ces consignes de vote données par l'imam, ce sont des consignes de vote avec des contreparties exigées à ceux pour lesquels ils vont donner leur voix. Donc celui qui accepte qu'il y ait une consigne de vote en sa faveur, il va donner forcément une concession en leur faveur, qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite. C'est pas une question, je suis pas en train d'attaquer juste
LFI. C'est pour ça qu'on voit l'islamo-droitisme.
Absolument.
Qui nous a d'ailleurs coûté un peu cher avec l'incorrect, même si on a gagné notre procès contre Valérie Pécresse, salut Valoche. Non, c'est ce qu'on dénonçait, c'est vrai, c'est évidemment. Vrai. Donc, c'est, en fait, c'est pas des raisons idéologiques, c'est vous avez les pétromonarchies qui achètent des voix, achètent des politiques, et ça passe par les imams.
Ça passe par les imams, ça passe aussi en promettant à différents politiciens qu'une fois qu'ils auront arrêté leur carrière politique, on va leur faire des conférences, on va leur donner tel ou tel projet, on va les prendre comme avocats, on va leur donner telle affaire,
Beaucoup
on va
Nicolas
les utiliser
Sarkozy.
Comme lobbyistes.
Non mais c'est fascinant en fait, dans tout ce que vous décrivez, on peut prendre tous les anciens premiers ministres, tous les anciens présidents, ça on parle pour les hauts, donc c'est-à-dire ceux qui vont rémunérer très cher leurs conférences, donc c'est-à-dire eux nous ont vendu la France à la découpe aux pétromonarchies, parfois à notre intérêt mais aux conséquences désastreuses comme on le voit, et puis ça se joue jusqu'à l'échelle du maire.
Voilà, absolument.
C'est ça. Et c'est pas une question idéologique.
C'est pas une question idéologique. Celui qui est prêt à vendre sa mère, entre guillemets, pour être réélu, il le fait. Qu'il soit de gauche, du centre, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, ou je ne sais quoi.
C'est effrayant. Bon alors, là, on a fait, chers amis, qu'un petit aperçu de livre du Michel Fayade. Après la guerre, la menace à nos portes, vous l'aurez compris, vous allez découvrir pas mal de choses, notamment ce qu'on n'a jamais entendu jusqu'à présent, à savoir l'achat de votes par les imams, consignes données directement par les pétromonarchies qui sont sur notre sol et qui achètent des élus de droite comme de gauche, des maires comme des députés,
France, hein.
Des ministres, ce qui m'intéresse c'est la France,
bien
l'Angleterre.
Sûr, bien sûr.
Si les Anglais peuvent crever, je ne pleurerai pas. même si je les aime... Non, je ne les aime pas. Bref, donc vous l'aurez compris, chers auditeurs, achetez ce livre, vous allez apprendre plein de choses, c'est brillant. C'est...
Merci.
Non, vraiment, c'est brillant, c'est érudit, on apprend toujours plein de choses. De toute façon, on aime beaucoup vous inviter parce qu'on ressort de là moins bête qu'au départ. Donc merci Michel, devons vous laisser parce que vous allez faire plein de signatures de toute la queue de gens qui vous attendent, qui veulent récupérer la petite dédicace. Et nous, on va continuer, chers amis, avec la chronique de Rémi Carlu, puisque vous l'avez loupé à 18h, et on vous l'offre à 18h21. Rémi Carlu, vous allez nous parler de... du général de Gaulle et du cinéma, parce que vous l'aurez pas échappé, chers amis, qu'il y a un film qui est sorti cette semaine, La Bataille de Gaulle.
Effectivement, depuis une semaine, les salles sombres françaises accueillent La Bataille de Gaulle, un film d'Antonin Baudry au budget XXL, qui retrace l'épopée de la France libre à partir des pérégrinations de son maître d'œuvre principal, le général de Gaulle. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il circule entre l'histoire et le mythe sans tout à fait trancher entre les deux. L'histoire s'est montrée, non sans une certaine audace d'ailleurs, un De Gaulle aux abois quand il débarque à Londres. Sa solitude est plombante, les Français ne le suivent pas, les Anglais se jouent de lui, les Américains veulent s'en débarrasser. Du reste, le réalisateur ose nous montrer un De Gaulle un peu antipathique, à la fois raide, arrogant, cabochard. Ses gestes sont robotiques et ses paroles trop grandiloquentes pour être prises au sérieux. Rien de grand n'a de grand commencement, disait Mestre. Mais son culot, son opiniâtreté et la haute idée qu'il prétend incarner finissent par tout emporter, et c'est là que le film bascule de l'histoire à la mythologie. La France libre devient une épopée picaresque et épique avec ses images d'Épinal, bien sûr, mais non sans souffle, quitte à enjoliver l'histoire et à verser dans un manichéisme certain. On y voit surtout un De Gaulle acteur en pleine conscience de sa propre mythification, notamment par son sens inouï de la mise en scène de soi. De ce film, le général ressort tout à la fois absurde et sublime.
Réussir à Kell et Joseph de Metz dans une critique de film sur De Gaulle, chapeau. Vous parlez de mythe. Vous voulez dire que ce qu'on nous raconte à son sujet est en partie faux ?
Oui et non. J'entends le mythe au sens que lui donne Raoul Girardet dans son texte majeur « Mythe et mythologie politique » paru en 1986. Un mythe politique, c'est une représentation imaginaire qui structure la pensée et l'action en donnant sens à l'histoire et en mobilisant les passions collectives autour de grandes figures et de récits fondateurs. Ce qu'il est important de comprendre et de retenir, c'est qu'un mythe politique survient dans les temps de catastrophe. Les repères rationnels et ordinaires sont balayés, le sol s'effondre sous nos pieds, et c'est alors que l'imaginaire s'active pour qu'on ne soit pas emporté comme une paire d'ailes qui viendrait nous affranchir des lois de la pesanteur. Coagulant social qui permet de refaire la cohésion d'une communauté, le mythe est aussi une force dynamique, mobilisatrice, qui redonne du sens, de l'espoir et invite à l'action. Il naît du besoin collectif de réenchanter le réel à mesure que ce réel nous échappe. C'est exactement ce De Gaulle que nous montre le film. Le positivisme moderne a fait des mythes politiques un résidu des temps magiques qu'il faudrait à terme congédier. Ce film nous rappelle, au contraire, qu'ils sont une structure anthropologique fondamentale et qu'ils constituent le ressort le plus puissant de toute communauté politique. Le mythe est à la société ce que l'instinct de survie est à l'individu.
Alors pourquoi le mythe gaulliste est-il si puissant ?
Mais il y a d'abord une explication circonstancielle, évidemment, et pour ainsi dire chronologique, le gaullisme est notre mythe politique le plus récent, certains de nos contemporains l'ayant vécu. Dans notre imaginaire politique sédimenté, le gaullisme en est la couche la plus à vif, donc la plus facilement activable. Mais il y a une raison beaucoup plus profonde. Dans son ouvrage, Girardet distingue diverses sortes de mythes, parmi lesquels figure le mythe du sauveur, donc, c'est-à-dire l'avènement d'un homme providentiel investi d'une mission historique et cristallisant un système de valeurs pour sauver la communauté nationale de la perdition. Et il existe, poursuit Girardet, divers types de sauveurs. Il y a le vieux sage retiré qu'on rappelle au pouvoir face au péril, il y a le jeune conquérant hardi qui renverse la table, il y a l'illustre législateur qui fonde un ordre nouveau, il y a enfin le prophète qui annonce ici-bas des vérités supérieures. Or, et vous voyez où je veux en venir, ce qui fait l'exceptionnalité du mythe de Gaulle, peut-être sans équivalent dans notre histoire, c'est qu'il a rempli toutes ces variétés de sauveurs au cours de sa vie. Il a été le conquérant fougueux en 40 avec l'appel du 18 juin, puis il devint un prophète incarnant une certaine idée de la France qui le dépassait mais qu'il avait la tâche de transmettre. Il a ensuite été le vieux sage rappelé en 58, après la traversée du désert, face aux événements d'Algérie, puis se fit alors législateur illustre en donnant un nouvel ordre constitutionnel à la France. De Gaulle est donc une synthèse de toutes ces formes de sauveurs, ce qui explique sans doute la puissance extraordinaire du mythe gaullien dans notre imaginaire politique.
Donc est-ce la raison pour laquelle tout le monde se dit gaulliste aujourd'hui, même vous Rémi Carlu?
À mesure où nous enfonçons dans la crise politique institutionnelle, cher Arthur, tout le personnel politique, de Le Pen à Mélenchon, en passant par toutes les nuances centrales, se réclament effectivement du général de Gaulle. Et la raison en est simple, De Gaulle est le dernier pourvoyeur de légitimité. Dans une nation archipélisée, les élections ne réussissent plus à distinguer un chef à l'autorité duquel une majorité de Français consentent avec entrain. Nos institutions, quant à elles, fragilisées pour des raisons diverses, ne suscitent plus une foi suffisante pour légitimer par leur seul fonctionnement celui qui en est à la tête. C'est donc à l'homme qui fonda ces institutions, et dont la légitimité leur préexiste, que tous veulent aujourd'hui se rattacher directement comme un bébé cherche le sein de sa mère. Toute la question désormais est de savoir si le mythe gaulliste peut encore remplir son office. Car ce capital politique, certes réactivable, à force d'être mobilisé en vain, perd peut-être en acuité. C'est sans doute le paradoxe du film. Il arrive au moment où le gaullisme est omniprésent dans les discours, mais complètement creux dans les faits. Il est instrumentalisé partout, mais effectif à peu près nulle part, car tous l'ont trahi. Le mythe règne encore dans les esprits, mais certainement plus dans la vraie vie. Du reste, peut-être le monde est-il trop différent et la crise trop profonde pour que le mythe gaulliste suffise encore. Peut-être entrons-nous dans une ère nouvelle qui réclamera un mythe et un sauveur nouveau. Mais nul doute que celui-là s'inscrira dans les pas de De Gaulle, comme lui s'est revendiqué de Clovis et de Jeanne d'Arc. Les mythes parlent aux mythes.
Merci Rémi Carlu. Chers amis, une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Nous allons parler de la civilisation du geste avec Benjamin Chalut qui nous publie un livre très intéressant, « Quand le savoir-faire façonne le destin des peuples ».